Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, 89, un prisme brisé, point d'interrogation. 89, ce que l'on entend par là, est-il encore capable de nous éclairer aujourd'hui? A-t-il perdu son pouvoir de signification? Parmi ce que l'on entend aujourd'hui dans ces deux chiffres, 89, il y a la chute du mur de Berlin, l'Europe de l'Est. Nous allons en parler aujourd'hui avec Clara Royer. Est-il un prisme brisé? 89 a-t-il encore un sens en 2019? Et lequel? Et comment l'écrire? Ne faut-il pas remonter au-delà de 89? Les discours officiels, les discours politiques sont-ils le seul récit possible pour comprendre ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est véritablement écroulé? Qu'est-ce qui est tombé en 1989? Où en sommes-nous en 2019? Je suis très heureux d'en parler ce soir avec Clara Royer, qui est maître de conférence en culture d'Europe centrale à Sorbonne Université. Bonsoir Clara Royer.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être d'abord à Paris ce soir. Ça vous arrive maintenant plus souvent qu'avant. Vous êtes moins présente sur place à Budapest, à Prague, dans tous les lieux que vous connaissez si bien.
C'est vrai, mais là pour le coup, je suis de passage entre deux semaines à Budapest.
Ah. Vous êtes souvent à Budapest en ce moment, vous traduisez beaucoup le hongrois, vous le traduisez, vous le commentez, vous le mettez en relation de plein de façons, avec la littérature hongroise en particulier. Et là, vous y allez pour des raisons...
Pour le cinéma, en fait.
Vous travaillez sur un projet de film, vous avez été scénariste aussi.
Oui, pour Laszlo Nemes, le réalisateur hongrois, et donc en ce moment, on travaille.
D'accord, bah vous allez peut-être nous dire si ça a des liens avec le sujet dont on va parler ce soir. Peut-être pas, forcément, il y en a forcément un peu, ne serait-ce qu'à travers vous. 89, est-il encore en 2019 une orientation? Est-ce que cette question vous paraît pertinente? Est-ce que vous en avez aussi peut-être un peu assez de ces questions? Vous avez dirigé il y a déjà 10 ans un colloque qui est devenu un collectif, un volume intitulé « Sans faucille ni marteau », donc déjà sur la littérature post-soviétique, sur ce qui s'est 20 ans après, vous l'aviez fait, 30 ans après, est-ce que ça vous paraît comme ça une rengaine un peu vaine, ou bien au contraire ça change, ça évolue, et ça vous intéresse d'y revenir?
Non, je pense que les 30 ans après sont assez intéressants, parce que justement, il y a eu beaucoup moins de commémorations, de réflexions, me semble-t-il, même au niveau universitaire en France, sur les plus 30.
En 2019, pour l'instant.
La chute du mur est tombée à l'automne, souvent les choses vont se marronner, revient avec l'automne.
Bon.
Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait eu énormément de choses, et c'est vrai, c'est pour ça que avec ma collègue Petra James, qui est aujourd'hui à l'Université libre de Bruxelles, on avait voulu réunir des chercheurs d'Europe centrale et orientale pour réfléchir justement à ces grandes évolutions depuis 20 ans. Et on s'était rendu compte que, comme souvent, le discours de la rupture était bien partiel et qu'il y avait énormément de continuité, au moins depuis le début des années 80, pour ce qui est de l'Europe centrale, c'est-à-dire Hongrie, Pologne et ancienne Tchécoslovaquie en particulier. Et c'est vrai que cette année, on n'a pas eu nécessairement le sentiment d'urgence de reposer ces enjeux-là dans un colloque.
C'est-à-dire que les 30 ans après viennent, là, il y a une sollicitation un peu, je dirais pas forcément médiatique, un peu quand même prise dans l'actualité de l'Europe d'aujourd'hui, mais du point de vue, disons, de l'intérieur, il y a moins d'urgence à essayer de réfléchir sur où on en est, ce qui se passe en ce moment.
Je pense parce qu'il y a eu aussi un petit effet de tournant, le tournant des années 2000-2010. Qu'on est dans des systèmes politiques en Europe centrale qui ne sont plus tout à fait les mêmes, que, ni par rapport aux années 90, ni par rapport aux années 2000. Et qu'aujourd'hui, la grande question à la mode, du point de vue français, c'est la question du populisme. Et donc, le discours qui était fondé sur la glorification d'un retour à l'Europe qui prédominait, qui était aussi héritier du fameux Occident kidnappé, hein, la théorie de l'Occident kidnappé de Kundera, est remis un peu en perspective. Et par ailleurs, pour ce qui me concerne, je pense qu'il y a eu aussi peut-être un effet de lassitude face à une double caractéristique en France. Hein, je parle vraiment du point de vue de la France.
Le point de vue de la France sur ces pays que vous travaillez, Clara Royer.
Et bah,
vous
d'un connaissez côté, ces je me suis plainte très souvent du manque d'intérêt suscité par ces pays. De l'autre, l'actualité politique nous rattrape donc. Bon, ça c'est peut-être bizarrement positif, ouais. Mais de l'autre, c'est vrai, une lassitude face au traitement assez systématique de l'Europe centrale comme le petit autre.
Mais alors, Clara Royer, vous venez d'indiquer en effet le thème sous lequel on en parle. Bon, il y a le petit autre, cette petite Europe qui vient compléter la supposée grande qui était presque faite, mais bon, on y rajoute cet appendice. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Mais surtout, vous disiez que aujourd'hui, c'est à travers le thème du populisme. Et pour vous, si je comprends bien, le thème de il y a 10 ans, le titre de votre anthologie, de votre collectif d'il y a 10 ans, sans faucille ni marteau, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qui se passe après ces années de communisme? Quelle trace laisse la faucille et le marteau dans les discours? Ça n'est pas terminé. Vous avez une frustration de ce côté-là, parce que sans faucille ni marteau, au fond, beaucoup d'enjeux d'ailleurs du populisme se comprennent encore par cette changement, cette supposée disparition qui n'est jamais complète.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est une question compliquée pour moi, hein, notamment parce que d'un côté, bien sûr que ça n'est pas terminé. Je sais que on cite souvent le discours de Viktor Orban au moment de sa réaccession au pouvoir, qui déclarait que la transition était achevée. Donc il y avait l'idée que voilà, le passé communiste avait été assez travaillé et que donc on pouvait aller de l'avant, qu'on était déjà passé de l'autre côté du mur. Mais d'un autre côté, alors c'est intéressant parce que chez les élites, chez les écrivains, la thématique communiste continue de hanter la littérature. Je pense par exemple au cas hongrois, mais pas seulement en fait, dans la littérature hongroise, polonaise, slovaque, il y a encore des livres qui typiquement vont évoquer le cas des archives post-communistes, notamment les archives des polices politiques. Ça c'est par exemple un exemple typique.
Il y a encore un passé qui demande à être pensé, qui demande même à être connu, exprimé. Et au fond, est-ce que vous soutenez Clara Royer que la littérature justement fait le travail que la politique ne fait plus en un sens
en tout cas c'est...
sur ce plan-là, quand le politique dit c'est fini, l'écrivain dit c'est pas sûr.
En tout cas, il y a un phénomène de concurrence des discours où la littérature se porte en rivalité ou en tout cas propose des discours alternatifs, d'une part à ceux qui sont ceux du champ politique et d'autre part même parfois ceux du champ historiographique. Donc des débats qu'on connaît en France,
en rival avec non seulement les hommes politiques mais les historiens.
Absolument. Et donc des débats qu'on connaît en France, je pense notamment aux débats récurrents Jonathan Little, Laurent Binet, Yannick Hanel, ça c'est qu'on trouve extrêmement français.
Comment les écrivains traitent le génocide, comment les écrivains traitent le nazisme, la Seconde Guerre mondiale.
Eh bien, c'est passé polémique, c'est un phénomène européen. Alors bien sûr, c'est pas toujours les mêmes passés. Mais on a un phénomène européen là. Si on regarde par exemple parmi les paritions marquantes en Hongrie là ces 2-3 dernières années, il y a des paritions sur les croix fléchées parce que l'écrivain qui a écrit ce roman estimait que il n'y avait pas eu de travail suffisant sur la responsabilité hongroise dans la Shoah, etc. Ça c'est un discours qu'on a beaucoup moins désormais dans le champ politique, ce qui n'était pas le cas dans les années 90, où on était aussi sur la sollicitation de l'Ouest, en train de réappréhender la mémoire de la Shoah.
Mais alors justement, là vous êtes passé de la mémoire du communisme, faucille et marteau,
parce
à la mémoire...
Très liées.
Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser, à la mémoire peut-être encore plus douloureuse. Enfin, il y a pas de hiérarchie, peut-être, quoique il y a une concurrence des traumatismes aussi, des revendications de victimes ou de bourreaux ou de souffrances entre les épreuves du XXe siècle, y compris jusqu'à la Première Guerre mondiale même. Mais justement, cette mémoire et cette utilisation littéraire de la Shoah dans les pays d'Europe centrale, elle est, comme vous le disiez en citant quelques noms, elle est très variée. Elle va de la dérision jusqu'à la méditation, la profondeur. L'écrivain que vous avez peut-être le plus travaillé, commenté, celui sur lequel vous avez écrit une biographie, un très grand livre, Imre Kertész, le prix Nobel hongrois, il avait écrit ce livre, traduit en français sous le titre « L'Holocauste comme culture », pour dire justement ça ne disparaîtra pas d'un jour à l'autre et ça fera l'objet de multiples réappropriations culturelles. Dans ce que vous venez de dire, vous êtes encore sa disciple ou sa continuatrice, Clara Royer.
Je ne sais pas si on peut parler d'héritage de ce point de vue-là, Frédéric Worms, mais
peu quand même.
En tout cas,
je sais que vous avez scrupule à le dire, mais non, mais je dirais que il y a une fidélité, disons.
Parce que vous dites beaucoup de choses. Je dirais d'abord le lien entre la mémoire de la Shoah et la mémoire du communisme. Mm-hmm. Il est aussi lié au fait que les archives qui se sont ouvertes au lendemain de 89 étaient relatives à ces deux période. Donc elles ont été ouvertes pour une partie en même temps.
Et l'une avait fermé aussi les archives de l'autre, en fait. Le communisme avait aussi fermé les archives d'avant lui.
En grande partie, parce que la Shoah, alors pour le cas hongrois, jusque dans les années 70, où il y a eu un dégel, qui anticipe par exemple ce qu'on connaît en Pologne dans les années 80.
D'accord. Hein,
les chronologies ne sont pas équivalentes
d'un
pays à l'autre. Ce
sont pas les mêmes, pays par pays.
Absolument. Et alors la Tchécoslovaquie, c'est le plus tardif. Hein. Ivan Kamenets, par exemple, qui était le grand historien qui a le plus travaillé sur... le pionnier de l'historiographie sur la Shoah en Slovaquie, n'a pu publier ses travaux qu'après la chute du mur. Donc on a des chronologies effectivement espacées. Mais les deux sont liés. Alors, évidemment, si on revient à Kertész, les deux sont liés parce que, pour lui, la dictature communiste a été sa Madeleine de Proust. Pour retrouver dans sa mémoire...
Il disait même, si je me souviens bien, que pour quelqu'un qui avait connu la déportation à Auschwitz ou les camps d'extermination et qui revient dans un pays occidental démocratique, le choc était presque encore plus violent, paradoxalement, que pour lui, qui s'est retrouvé dans une autre dictature. Et finalement, c'est pas qu'il y avait continuité, mais en tout cas, on pouvait pas refouler.
Il mettait sur le compte de l'absence de liberté la capacité à survivre, finalement. Et d'ailleurs, pour lui, la chute du mur a engendré une véritable crise d'écriture.
Vous voulez dire que l'absence de liberté aidait Kertész à survivre?
On ne peut pas écrire sans contrainte. Voilà, c'était l'une de ses croyances. Et lui-même, d'ailleurs, a sans doute pu écrire, fort de sa conviction grandissante dans les années 90, que, comme il l'a dit, je crois qu'il l'écrit dans un autre chronique du changement de régime, que la Hongrie s'est libérée du bolchevisme, mais pas d'elle-même. Mmh. Donc, à mesure qu'il se rendait compte qu'il y avait énormément de continuité entre l'avant 89 et l'après 89, que le nationalisme prenait des dérives dangereuses, c'est-à-dire que dans tous les pays d'Europe centrale, l'extrême droite s'est consolidée.
Il l'avait vu déjà, Imre Kertész.
Oui, il l'avait vu, mais en même temps, on pouvait le voir. Mmh. Il y avait des formations politiques très très douteuses. Le premier cas qu'on qualifie aujourd'hui de populisme dans la région, c'est en Slovaquie. C'est le gouvernement Mečiar dans les années 90. Qui a dû susciter toute une coalition de gens de forces politiques qui d'ordinaire ne se parlent pas, enfin essayent d'éviter de se parler, pour le renverser.
Donc c'était le premier modèle, Clara Royer, de ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire une division politique qui n'est plus classiquement droite-gauche démocratique, mais entre le populisme d'un côté et ceux qui s'y opposent de l'autre, et qui forment finalement le nouveau prisme de la politique européenne avec ses dangers, ses réductions d'ailleurs.
Vous avez raison, Frédéric Worms, de souligner cette dimension pan-européenne, parce que je pense qu'en effet, la frontière qui, dans les discours quotidiens, aussi encore dans la presse, continue d'utiliser la terminologie Europe de l'Est.
Ah, voilà.
J'ai envie de... Je sais, là, c'est une affaire qui me tient peut-être à cœur, mais c'est vrai que Europe de l'Est, et en général, on dit l'Europe. Donc on a l'Europe de l'Est et l'Europe tout court. Et ça, c'est un déséquilibre très intéressant qu'il faut analyser. Ce qui fait que nous, on a déjà... C'est pour ça que je parlais du petit autre. Non, mais... Parce que dans le fond, par exemple, cette obsession des écrivains centre-européens, cette méditation, parce que c'est pas que sur le registre obsessionnel, il y a une méditation sur le passé. Là, je viens de terminer un magnifique roman polonais qui s'appelle « Toutes les langues du monde », qui a été publié en 2005 par l'écrivain Menzel, qui est publié en français. Qui est une longue méditation sur toute l'histoire de la Pologne sur 2 siècles. Eh bien, dans le fond, c'est quelque chose de très commun avec ce qu'on voit à l'Ouest et même en dehors de l'Europe. Parce que regardez aujourd'hui,
même aux États-Unis, partout, le prisme,
l'esclavage aux États-Unis est un thème extrêmement prégnant en ce moment, Frédéric.
Le retour d'un certain passé. Mais Clara Royer, donc vous êtes maître de conférence, on le disait, à Sorbonne Université en culture d'Europe centrale.
Oui.
Terme que vous employez, que vous assumez, visiblement, vous venez de le réemployer. Vous venez de dire aussi que le terme Europe de l'Est doit être peut-être questionné. Il porte la trace du mur, tout simplement, en un sens. Le mur, c'est ce qui était censé diviser 2 Europes, celle de l'Ouest et celle de l'Est. Finalement, s'il persiste, est-ce que c'est pas le signe de ce que vous dites aussi, c'est-à-dire que la mémoire de cette histoire-là, de cette division-là, n'est pas entièrement surmontée. Si on dit encore Europe de l'Est, comment se décrivent eux-mêmes les pays de cette région, d'ailleurs? Si c'est encore là, c'est justement que ça ne passe pas tout à fait. C'est pas encore passé.
Eh bien, en ce moment, il y a un terme à la mode qui est Europe de Visegrad.
C'est ça, le groupe de Visegrad. Ça regroupe certains des pays dits d'Europe de l'Est.
Ben, c'est 4 pays désormais, hein, mais 3 États quand ils ont signé l'accord de Visegrad en 91. République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Pologne, qui, il y a bien des siècles, plutôt, avaient conclu un accord économique contre Vienne. C'était au 14e siècle, me semble-t-il. Et donc, ça a été réactivé.
Scission interne austro-hongroise qui revient maintenant intra-européenne, finalement.
Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de manipulation politique de part et d'autre, chez nous comme chez eux, sur ce que veulent dire ces divisions entre Est et Ouest, entre ces centres européens qui revendiquent aujourd'hui une européanité plus européenne que la nôtre. C'est-à-dire que nous serions fourvoyés dans le libéralisme et autres impasses. Finalement, eux incarneraient cette vraie Europe avec des valeurs X et Y. C'est un discours des politiques, entendons-nous bien.
Oui, mais c'est très important parce que on a l'impression qu'effectivement, l'expression Europe de l'Est, comme vous le disiez au début, Clara Royer, est un peu au contraire l'idée d'une petite Europe complémentaire. Et là, au contraire, le groupe de Visegrad dit « nous sommes la vraie Europe, celle de l'identité, celle d'une sorte de pureté historique qui préserve aussi contre des dangers extérieurs, qui durcit des frontières. »
Et qui est mensongère.
La question c'est, au fond, est-ce que l'un, le durcissement, dire « on est la vraie Europe », n'est pas l'effet de l'autre, dire « Europe de l'Est », c'est-à-dire la condescendance des uns ne produit-elle pas le durcissement des autres?
Je pense que vous avez tout à fait raison, Frédéric Worms, pour, deux raisons. La première, c'est que quand on a retrouvé notre Europe voisine, il y a eu cet effet de petite Europe a engendré toute une pédagogie culturelle. Mmh. Alors et politique, on est venu apporter.
Sorte de cours de rattrapage de démocratie.
Ce qui était aussi demandé par l'élite libérale de ces pays. Mmh. Donc entendons-nous bien, nous ne sommes pas que coupables. C'était nourri dans les deux sens. Et je pense qu'il y a un retour de bâton dans les victoires électorales, ça participe des victoires électorales de partis politiques comme le Fidesz en Hongrie ou le PiS en Pologne. Mmh. Ça, c'est certain. Et le deuxième point, c'est que, très paradoxalement, j'ai envie de dire, les centres européens se retrouvent aussi dans cette Europe collective, les héritiers, malgré eux, d'un passé impérial et colonialiste occidental, pour le coup, qui les met vraiment en porte-à-faux. Je relisais Eben, les aventures africaines de Richard Kapuscinski, qui raconte comment...
Qui a écrit aussi ce livre très important, dont j'oublie le titre
qui a écrit sur le Shah d'Iran, qui est ce grand reporter polonais.
Sur l'autre, un livre qui est comme titre La parole de l'autre. Ça va me revenir, Clara. Je sais qu'il y a l'autre dans le titre, mais en tout cas... C'est un écrivain polonais qui s'est vraiment intéressé à l'Afrique, pour le coup.
Et qui est très bien traduit en français, et qui est vraiment dans le genre du grand reportage polonais. Eh bien, dans les aventures africaines, il raconte le choc qu'il a eu en arrivant en Afrique. Tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il était blanc. Et que il serait convenable de ressentir une culpabilité face à ses interlocuteurs africains, mais que lui-même était incapable de se sentir coupable, puisqu'il se sentait innocent, puisque ce n'était pas son passé. Mais que face à cet autre africain, eh bien, il était blanc, donc il était du mauvais côté.
Oui, mais on a bien vu aussi, Clara Arroyer, que face à la question des migrations d'aujourd'hui, cette différence de passé colonial ou pas a pu être utilisée pour durcir, ou pas pour s'ouvrir, mais au contraire pour durcir en disant c'est votre problème, vous, Europe de l'Ouest, vous avez colonisé, maintenant les migrations reviennent.
Donc, et en même temps,
ça pourrait ouvrir et ça ferme. Comment est-ce que vous l'interprétez avant qu'on vienne à la littérature aussi?
Je ne sais pas si on peut l'interpréter. La question continue d'être ouverte et nous ne sommes que de modestes observateurs, Frédéric Worms. Mais je pense que vous pointez
lecteur aussi. Vous êtes lectrice.
Oui, bien
vous
sûr.
Êtes, traductrice. Vous entrez dans l'intérieur des discours.
Vous pointez un paradoxe. C'est-à-dire que d'une certaine façon, si je gauchis un peu mon propos, les centres européens ont hérité, ont plutôt récupéré, se sont réappropriés une partie de cet héritage colonial du voisin occidental, qui est une forme de supériorité culturelle, blanche, chrétienne, etc. Ce qui est drôle, puisque ce n'est pas leur passé. Et c'est aussi lié au fait que eux-mêmes, je pense, sont aussi un peu amnésiques sur leur propre rapport aux empires et sur leur propre histoire coloniale. Parce qu'en Europe centrale, il y a aussi une histoire coloniale, mais c'est pas ça dont on parle tous les jours.
Alors, vous pratiquez donc l'écriture, mais aussi le rapport au cinéma. Vous développez ces tensions de ce que finalement peut-être le terme le moins mauvais est celui de l'Europe centrale, des centres européens. Vous nous proposez pour jalonner cette discussion une musique tirée d'un film qui lui-même est tiré d'un livre dont le titre incarne tout cela, Mélancolie de la résistance. Mais on va d'abord écouter la musique intitulée Valouchka.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, 89, un prisme brisé, peut-être un prisme mélancolique, comme cette musique d'un film d'Europe centrale, pourtant adapté d'un livre qui parle de mélancolie mais de la résistance. On en parle ce soir avec Clara Royer, maître de conférence justement de culture d'Europe centrale à Sorbonne Université, qui a proposé cette musique. Clara Royer, c'est cette musique, donc elle a ce voyage depuis un livre, un roman, par un film, et évidemment un compositeur aussi. Elle a son titre. Comment est-ce que qu'est-ce qui vous a amené à y voir une expression de toutes les questions dont on parle ce soir?
Ben c'est vrai, c'est un... Alors, la musique, elle a été composée par Mihai Vig.
V.I.G. pour nos auditeurs.
Exactement.
Vous allez voir sur Internet.
Pour le cinéaste Bellatar, qui travaillait longtemps en coopération étroite avec ce grand écrivain qu'est Laszlo Krasznahorkai, qui a publié La mélancolie de la résistance, et il en a ensuite tiré un scénario. Et c'est le scénario des harmonies Werkmeister.
Qui est le titre du film. Le livre s'appelle Mélancolie de la résistance, qui est un titre extraordinaire. Mais le film Harmonie Werkmeister, vous allez nous dire en un mot peut-être pourquoi.
Parce qu'en fait, il reprend les deux premières parties du livre. Il laisse la troisième au roman. Il n'y touche pas. C'est vrai que c'est une œuvre qu'il est difficile d'adapter. Et Bellatar a fait un film absolument magnifique. Et donc, cette musique que nous venons d'entendre, elle correspond au début du film lorsque le héros, qui est un peu c'est un personnage de naïf,
hein,
c'est entre Gimpel le naïf et l'idiot Dostoïevski.
Certains personnages tchèques aussi, comme le brave soldat Schweik ou...
Mais moins comique, moins irrévérencieux.
C'est ça.
Il n'est pas bête, il est simple, c'est un cœur simple. C'est la façon que Krasznahorkai a de porter un regard défamiliarisant sur le monde. Et il est dans cette taverne et il est cerné par les poivreaux et il explique la cosmogonie. Il explique comment les planètes évoluent autour du soleil et comment la lune tourne autour de... Et en fait, au lieu de faire un discours, ce dont il est bien incapable, il va faire danser les uns autour des autres, ces poivreaux, ces clochards, ivrogne, et c'est une scène qui est d'une beauté extraordinaire. Et en fait, j'ai pensé à cette musique parce que d'un côté, ben voilà, ça porte bien ces questions sur l'histoire, parce que La mélancolie de la résistance, comme le film de Bellatar, c'est l'interrogation sur le viol de l'histoire. Le film se termine par une scène de pogrom qui pourrait se passer à diverses époques
De l'Europe du XXe siècle
et de l'Europe. En réalité, il n'y a pas forcément un pays précisé. Au moment où c'est sorti, je sais que beaucoup de spectateurs ont pensé à ce qui se passait en Yougoslavie. Il y en a d'autres qui ont pensé aussi à ce qui se passe, enfin, à la Shoah, etc.
Si je me souviens bien, c'est une ville un peu désertée, fantomatique, où ce personnage erre d'un lieu à l'autre, dont ce bar.
Sur les rails des trains.
Et sur les rails des trains. Et puis, il y a une troupe de cirque, un peu comme dans Fellini, ou aussi un peu comme dans Melville, parce qu'elle transporte une baleine et qui vient s'échouer dans cette
avec
ville.
Avec un prince.
Et qu'est-ce que vous y voyez comme diagnostic, au fond, sur cette zone, comme aurait dit aussi peut-être Tarkovsky, au cinéma, c'est-à-dire cette sorte de paysage qui porte les traces d'un passé détruit, qui tente de se reconstruire. Ça va jusque dans les corps de ces poivreaux qui sont abîmés. Mais en même temps, il y a cette musique et il leur explique la beauté du monde.
Absolument.
Donc comment est-ce que vous...
Et cette beauté du monde va... C'est-à-dire Valouchka, ça va très mal se terminer pour lui, bien sûr. C'est la fleur écrasée, Valouchka. Et en même temps, j'ai choisi ça parce que on est dans un discours mélancolique qui ne marche plus aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une œuvre, une double œuvre, qui est caractéristique des années 2000.
Qui est déjà datée pour vous.
Et qui, pour moi, oui. C'est-à-dire que la mélancolique, peut-être que c'est moi, et j'ai sans doute tort, c'est mal d'être mélancolique, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça ne correspond plus aux musiques que l'on entend en Europe centrale, sauf lorsqu'elles sont portées par des artistes ou des écrivains.
Mais il y a peut-être pire, Clara Royer, que la mélancolie que vous continuez de porter, c'est le déni de la mélancolie, c'est-à-dire une Europe centrale qui se voudrait justement dans le déni de ce passé douloureux. Est-ce qu'elle peut même y échapper par là? C'est-à-dire, on sait bien que certains pays ont fait l'effort de se confronter à leur passé complexe, voire coupable. Ça ne les a pas affaiblis, au contraire.
Vous savez, Frédéric Worms, je pense qu'en Europe centrale, il y a eu aussi un petit ras-le-bol de regarder comme l'Allemagne de l'Ouest a bien réussi à se confronter à son passé. Pour ma part, sociologiques le montrent également. Il y a eu une étude, je suis désolée, je n'ai plus le nom des chercheurs en tête,
mais
il y a
une
étude sociologique qui s'est appuyé sur des enquêtes sur trois générations, sur des familles à trois générations. Et on voit bien en Allemagne, ex-Ouest, et on voit bien que voilà cette magnifique autoglorification de la mémoire collective, institutionnelle, etc. Bah tout ça ne porte pas des fruits si concluants en 2019. Donc bon, la grande réussite de l'Allemagne, moi je la mettrais vraiment. J'aimerais bien qu'on la réexamine. Je n'en suis pas convaincue.
Vous diriez la même chose pour la France, Clara Royer, dans laquelle vous êtes revenue, après aussi avoir dirigé un centre français de sciences sociales à Prague pendant quelques années, donc aussi dans cette médiation. Là, on voit bien que vous passez des témoignages littéraires, témoignages et œuvres, et puis aussi aux recherches en sciences sociales. Pour vous, il faut mélanger tout ça. Il faut un discours à plusieurs voix pour comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas s'en tenir à un seul. On voit bien que si on s'en tient à la mélancolie, on se dit « Ah, c'est encore là ». Mais là, la sociologie nous dit autre chose. Oui. Donc, comment est-ce que vous combinez vous-même sciences sociales, littérature, analyse politique ?
Par l'écartèlement, mais juste un tout petit mot pour la mélancolie. La mélancolie, j'utilise bien le mot mélancolie parce que je n'utilise pas le mot nostalgie, qui est un des paradigmes du regard exoticisant que nous portons de l'Ouest vers l'Europe centrale, justement, et dont je pense qu'il faut se méfier. Mais pour ce qui est de moi, j'ai l'impression d'être une jongleuse. Non, voilà, c'est un peu c'est le merveilleux cirque européen et le merveilleux cirque de la vie. Donc,
il y a quand même. C'est parce qu'il faut avoir toutes ces balles entre les mains.
Les balles viennent du même jeu, je pense.
Mais sinon, on comprend pas si on n'essaye pas de les combiner.
Je crois voilà, peut-être aussi parce que j'ai grandi dans un discours qui était favorable à la pluralité, à l'interdisciplinarité,
et la pluralité des langues, l'apprentissage des autres.
Exactement. Et donc, je n'ai pas renoncé à cette foi-là. Mm-hmm. Et pour moi, de connaître la langue des autres, de les lire, ça veut dire que je vais vouloir transmettre. Donc l'enseignement, la traduction sont des activités de transmission. Mm-hmm. Mais pour pouvoir transmettre, il faut comprendre. Donc c'est pour ça que je suis chercheuse. Et puis tout ça me nourrit énormément. Et c'est pour ça que j'essaye de créer, que ce soit en collaboration par le travail de scénario ou toute seule quand j'arrive à avoir un peu de temps pour écrire un roman, ce qui n'est pas toujours le cas.
Et quand vous dirigiez ce centre de recherche en sciences sociales à Prague, Clara Royer, est-ce que vous avez vu se construire une sorte de partage européen du savoir, de l'écriture, entre des étudiants, des chercheurs, des étudiants tchèques, hongrois,
Absolument.
Polonais, j'allais dire d'un côté, mais c'est déjà trop dire, et puis français, allemand, anglais ou autre, de l'autre côté, à supposer qu'il y a encore des côtés, mais justement, ça ne s'abolit pas d'un coup de baguette magique.
Non, justement, alors le CEFRES auquel vous faites allusion, le Centre français de recherche en sciences sociales qui est basé à Prague, mais qui a pour but de mettre en lien, de faire travailler ensemble des chercheurs de cette Europe de Visegrad et de France. Ce centre, quand j'y étais, était vraiment un lieu commun. Et il n'y avait pas de Est-Ouest, vraiment un lieu d'échange, de travail ensemble. Et ça, c'était vraiment la grande beauté de cette expérience-là. De travailler avec les collègues tchèques, hongrois, polonais, slovaques, français et d'autres, parce que dans le fond, c'était... on avait par exemple organisé une nuit de la philosophie en 2016 et au début on avait sur tous les programmes on disait que c'était les 5 pays mais en réalité ça a débordé. On a eu des invités d'Allemagne, des États-Unis, de Belgique et parce que dans le fond il faut pas avoir une langue commune. Au contraire, pour faire un dialogue, il faut plusieurs langues. Et je parle pas seulement sur le plan linguistique, je parle aussi sur le plan des idées.
Des registres et des styles. Et on parlait des sciences sociales et de la littérature.
Et Prague était extraordinairement accueillante pour ça.
Et les couches de passé qui remontent, Clara Royer, vous parliez donc du communisme, de la Deuxième Guerre mondiale. Sans doute pas fini de remonter, puisque finalement,
non, ça dépend de chaque
des corps enterrés finalement ou enfouis.
Ça dépend de chaque pays, bien sûr. Par exemple, pour le cas hongrois, l'année l'année prochaine, la grande date en réalité, 89. Donc là, j'étais à Budapest la semaine dernière et la journée lune des fêtes nationales en Hongrie, c'est le 20 août, c'est la Saint-Étienne, qui est le réputé pour être le fondateur du pays, celui qui a introduit le christianisme, etc. Et récemment,
et donc le 20 août.
Eh bien, le 20 août, qui aujourd'hui a été, enfin, qui a été déclaré anniversaire de la Hongrie. Ça c'est quand même
anniversaire de la Hongrie.
C'est un peu spécial, mais
un
bon.
Un pays qui a une date de naissance.
Pourquoi pas, exactement, pourquoi pas. Donc, il y avait quelques échos de 89, et puis Viktor Orban est allé participer à ce petit déjeuner pan-européen avec Angela Merkel il y a deux jours à Sopron, qui est une petite ville à la frontière de l'Autriche. Mais en vrai, la vraie date qui compte, c'est 2020. Parce que 1920, parce que le traité de Trianon.
Alors 1920, effectivement, qui est vécu comme le traumatisme, c'est-à-dire le dernier des traités censés fermer la Première Guerre mondiale, est au fond peut-être celui qui l'a laissé ouverte comme une plaie.
Bon, comme le traité de Versailles.
Déjà le traité
entre
de Versailles,
Frédéric Vance,
celui
c'était
de,
pas très élégant. Traité
ce traité de Versailles a produit la Seconde Guerre mondiale. Le traité du Trianon a laissé des traces qui sont encore. C'est celui qui a donc désarticulé, si j'ose dire, l'Empire austro-hongrois entre autres choses, qui a redessiné les frontières en
de
Europe
la Hongrie, oui.
et
les,
la Hongrie en particulier. Donc
le vit comme le traumatisme majeur. 60% de son territoire, plus de 50% de sa population.
Mais donc le 20 août est lié au traité du Trianon ou...
Alors non, c'est justement, c'est-à-dire que le 20 août c'est la Saint-Étienne.
C'est une date
donc là,
officielle, mais l'enjeu majeur c'est
non, le
Trianon.
Non, le Trianon c'est 4 juin 1920. L'année prochaine va y avoir beaucoup de commémorations. Il y a tout un plan, un projet en ce moment qui voudrait édifier sur la place du Parlement un très long couloir de 4 mètres de large sur 100 mètres de long parce que 100 ans sur lesquels sur les
sorte
murs
de tunnel
latéraux
en pleine ville.
Exactement, sur les murs latéraux desquels seraient inscrits les je ne sais plus combien peut-être 125 000 ou que sais-je, ou 25 000, j'ai oublié, noms des localités qui avant appartenaient à la Hongrie. Ce qui est fou, hein. Évidemment en hongrois, parce que vous savez, c'est la beauté de l'Europe centrale, c'est la déclinaison
ethno-linguistique, comme on dit parfois,
toponymique.
Topo-ethno-linguistique.
Exactement. Et même des historiens qui sont proches du pouvoir ont dit que c'était une folie, ce projet, parce que c'est une... Ça a des vilains échos du révisionnisme des traités de l'entre-deux-guerres.
Clara Royer, on parlait aussi de la concurrence des traumatismes. Quand j'entends ce que vous dites, j'avais pas entendu parler, on pense aussi à une sorte de volonté de mettre en miroir des noms de localités, disons, séparées du pays, et puis les mémoriaux des victimes des différents totalitarismes, y compris la Shoah, qui évidemment passe par des listes de noms. Donc, est-ce qu'on va en venir à des listes de noms contre d'autres listes de noms et l'une peut-être contre l'autre au sens où vraiment il y aurait dans certains pays cette volonté d'opposer les mémoires au lieu de concilier les traumatismes.
C'est une dystopie très effrayante, Frédéric Worms. Je ne sais pas encore répondre à cette question. Nous le verrons bien, mais... c'est pas la liste des victimes là, c'est vraiment la liste des lieux.
Oui,
mais effectivement,
comment ne pas y voir dans la disposition même d'un monument de ce genre une sorte d'écho en tout cas.
Bon, on va voir déjà s'ils le font ce monument, mais ils en seraient bien capables. L'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui est très intéressant dans l'affaire Trianon, c'est que j'ai l'impression que quand même. Il y a un tiraillement aussi au sein de la politique hongroise entre d'un côté le désir de commémorer et d'activer des vieilles nostalgies absurdes qui d'ailleurs font fi de ce que vivent les minorités hongroises dans les pays limitrophes hein, parce que
surtout au moment où il y a l'Europe enfin qui, voilà. Qui réunit tout le monde en un sens
et en même temps justement cette tentation enfin en tout cas la tentative de Viktor Orban de devenir le chef de cette Europe Visegrad, hein, de devenir le porte-parole pour les quatre pays. Et donc, Trianon et Visegrad, ça ne se marie pas bien ensemble. Donc, il faudra voir.
Est-ce que c'est si sûr? Parce que s'il cherche à dire, voilà, c'est nous qui avons le plus souffert, ça légitime encore plus.
Disons que je dirais que pour marier Trianon et Visegrad, alors il faut l'autre français. Mmh. Et là, justement, ce sera un effet de miroir, on parle de prisme, hein, ce sera un effet de miroir assez intéressant, puisque l'un des discours possibles, c'est la faute aux Français. Mmh. Hein, et c'est la faute de Clémenceau.
C'est près de Versailles, c'est à Versailles. C'est
exactement.
Peut-être, alors je force un peu l'analogie historique, Clara Royer, mais je voudrais revenir à 89. Donc Trianon, on est dans le parc de la monarchie française, celle qui s'est interrompue en 1789. Est-ce qu'il y a moyen, malgré tout, que 89, c'est-à-dire avec ce que ça véhicule, malgré tout, sur les droits de l'homme, sur l'universel, sur la chute des murs, est-ce qu'il y a moyen que ça reste un ferment possible dans, au-delà de 2019 et de 2020 même, et de cette Europe centrale? Est-ce que vous voyez aussi dans la littérature le rapport à la démocratie, le rapport aux injustices? Est-ce que vous la voyez aussi porteuse d'avenir d'une certaine façon?
Oui, je pense que dans une certaine mesure, la littérature qui veut offrir d'autres discours possibles, hein, donc il y a aussi une littérature qui se tourne vers une foi dans une Europe des libertés, hein, bien sûr. Mm-hmm. Mais encore une fois, on parle d'élite. Il y a aussi, je dirais, peut-être plus chez les jeunes artistes, peut-être chez les jeunes écrivains aussi. Un sentiment plus pessimiste en ce moment, l'idée que dans le fond bon, c'est aussi le sens que prend mon travail avec Laszlo Nemes, hein, je pense, c'est
qui
l'idée que
le fils de Saul,
le réalisateur du fils de Saul et de Sunset récemment, c'est voilà cette idée que dans le fond l'Europe ça fait déjà 100 ans qu'elle est morte.
Mais est-ce qu'il faut pas toucher ce fond-là, j'allais
Absolument,
dire, pour
oui.
repartir aussi vers l'autre aspect de l'Europe qui existe aussi, malgré tout.
Mais il n'y a pas de pessimistes, pessimistes sans espoir.
Les vrais pessimistes sont ceux qui croient encore au bien et au mal, malgré tout, qui croient encore à quelque chose.
Absolument.
Vous-même, quel est votre projet propre sur tout ça, votre projet de recherche, l'unité de, s'il y en a une, de vos questions autour de, à la fois le cinéma, la littérature, la recherche.
Mais je crois je pense, Frédéric Worms, que vraiment là, en ce moment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de réfléchir sur une façon de, si vous me passez l'expression, de déghettoiser l'Europe centrale et de montrer quelles sont nos problématiques communes. Et ça passerait justement par une réflexion sur ces passés conflictuels qui sont pas forcément les mêmes, mais qui dans le fond réagissent aux mêmes mécanismes, et que des écrivains essayent d'affronter un peu partout en Europe, certains avec sincérité, certains de façon un peu plus opportuniste, parce que voilà, c'est pas toujours évident de résister à la tentation du marché ou à la tentation des subventions d'écriture. Il y a des thèmes maintenant, hein. La littérature, c'est un peu comme la recherche, hein.
Il y a toujours des modes,
c'est de
et
plus
des codes.
En plus, oui. Il y a ça, c'est l'un des effets de la globalisation, c'est qu'il y a des demandes très très fortes. Donc.
Et donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut lire ces auteurs, regarder ces films, écouter ces musiques, mais pas comme des objets d'ethnologie, d'une altérité qu'on regarderait de loin, mais parce que c'est nous.
Oui, absolument, c'est nous. C'est nous pour tous ceux qui, comme vous et moi, je pense, Frédéric Worms, voulons être des citoyens du monde. Donc, oublions les regards exotisants, parce que dans le fond, c'est nous. Oui.
C'est nous. Merci infiniment, Clara Royer.
Merci beaucoup, Frédéric Worms, pour votre invitation.
Matière à penser, 89, un prisme brisé, c'était notre troisième conversation avec Clara Royer, avec, grâce aussi à Bruno Mourvan, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous demain avec Emmanuel Terret pour savoir si la révolution elle-même continue. À demain.